dérouler la bobine de vie de Mylène Salvador Ross est une histoire de fil et de fuseau. C'est également une histoire de transmission, de patrimoine et de territoire. Grâce à la volonté politique de la ville de Bayeux, Mylène Salvador Ross a créé le conservatoire de la dentelle où elle a transmis son savoir. Mais l'ouvrage de cette dentelière ne s'arrête pas à reproduire une technique ancienne. Elle a transcendé ce savoir. Ainsi, avec la collaboration de nombreux artistes comme Annette Messager, Marie-Ange Guilleminot, Françoise Cardon ou Dominique Torrente, elle réalise des œuvres qui se révèlent comme des éclats d'âme. Réaliser d'immenses dentelles, oui, c'est mon rêve en vérité. J'aimerais autour de ma maison tisser une clôture en fil de fer avec des points de dentelle. J'aimerais, comme en forme d'hommage, créer une dentelle géante avec du végétal vivant. Tisser les tiges d'une vigne vierge à mesure qu'elle pousse. En été, les feuilles cacheraient complètement la structure sur le mur, qui serait en évolution permanente et apparaîtrait en hiver avec la chute des feuilles. Mon regard sur le monde a changé de nature. Il est désormais parfaitement orienté, voire déformé. Je regarde tout au prisme de la dentelle. Je traduis systématiquement, j'interprète, je transpose, c'est selon. Je vois en dentelle. Ainsi, je ne perds jamais le fil.
C'est plus le geste que je... Le mot, chez moi, ça a toujours été un problème. C'est pas mon mode d'expression, ni l'écrit, pour moi, c'est quelque chose de très pénible.
Mylène Salvador Ross, maître d'art en dentelle.
C'est plus dans le faire du fil, quoi. J'ai trouvé mon mode d'expression dans le fil. Comme disait Carole Martinez, je suis dans le texte,
oui.
Du textile,
oui.
Voilà.
La durée de vie d'un fil,
ça peut être très 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 vieux, hein, puisqu'on redit, il y a des lambeaux, bon c'est des lambeaux, mais il reste des témoignages dans les fouilles d'Antinoé, des fragments de textile et autres qui sont encore entiers. Hein. Les matières que j'utilise maintenant, est-ce qu'elles dureront? Je ne sais pas.
Alors, avec quoi tu travailles?
Le cheveu, absolument tout. Tout ce qui peut tenir sur un fuseau et que je mêle au travail du tissage. J'introduis des matières comme la plume, des matières végétales aussi. Ça devient une palette et je fais mes mélanges.
Et la toile d'araignée aussi?
Oui, bien sûr. C'est un jeu où j'ai fait une dentelle, tiré des fils et je les ai donnés aux araignées pour qu'elles continuent. Donc là, j'ai fait le point, un mélange de techniques, mais avec mes copines les araignées. Et c'est assez surprenant que moi, elles ont pu prendre appui sur mon tissage pour créer le leur. Étant d'origine méditerranéenne, à la maison, on ne pouvait pas rester sans rien faire. J'avais une maman qui ne supportait pas qu'on soit inactif. Donc très vite, j'ai été en contact avec le fil, que ce soit la laine ou la soie pour broder. Donc ça, c'est une culture à la maison. Et quand je suis arrivée par les hasards de l'histoire en Normandie, j'ai été d'abord à Caen, et ensuite à Bayeux, où j'ai visité le musée, simplement. Et là, je suis tombée en arrêt devant des métiers de dentelle. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je me disais, en regardant le métier, je voyais les fils tendus avec les fuseaux, et un ruban dessiné de dentelle. Je dis, comment on peut arriver? simplement des épingles et des fils à pouvoir dessiner d'une manière aussi graphique. Et ça m'a vraiment intriguée. Donc je me suis renseignée, j'ai cherché, bon, il n'y avait pas beaucoup de... Il restait peu de témoignages de ce passé-là, en dehors des musées. J'ai cherché des personnes susceptibles encore de pratiquer cette technique, et rien. Il n'y a pas raison que je ne trouve pas les secrets. Parce que pour moi, depuis longtemps, il n'y a pas de secret, il n'y a que du travail. Quand on travaille, eh ben, on découvre les secrets puisqu'on est fait pareil. Et notre cerveau, en plus, par l'éducation qu'on reçoit, nous permet et nous apprend l'effort de synthèse. Donc je me disais, au contraire, au lieu de répéter un geste, je vais peut-être comprendre la mécanique, la logique. J'adorais les maths. Donc, je dis, ça doit être proche de la mathématique, c'est normal, puisque c'est de la logique humaine. Donc j'ai fait antiquaire, brocanteur, pour retrouver le matériel. Et petit à petit, j'ai reconstitué ce matériel de base pour faire la dentelle. Et j'ai cherché des documents, tradition orale, pas d'écrit, sur la dentelle normande. Donc j'ai commencé à étudier à la loupe et à la macrophoto sur les dentelles anciennes pour essayer de comprendre le cheminement des fils. Les livres, j'en avais pas trouvé. Et au bout d'un moment, c'est des copains qui me voyant bosser sur cette recherche, m'avaient trouvé l'encyclopédie des dames de Thérèse de Dilmont. C'est une vieille encyclopédie où il y avait un petit peu tous les ouvrages de dames. Et il y avait les bases de la dentelle au fuseau, mais expliquées, il faut voir comme. Mais ça m'a donné, au niveau des bases, le geste de la torsion et du croisement élémentaire et sur lequel on décline à l'infini, quoi. Puis après, ça a été que de l'approche un peu empirique. Et puis quand je trouvais quelque chose, j'étais heureuse, la plus heureuse de la Terre, parce que j'avais compris et découvert quelque chose. Et petit à petit, les choses se sont construites comme ça. Le musée Baron-Gérard avait beaucoup de cartons et son conservateur m'a permis de consulter ses archives. Donc là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, pour bien maîtriser les différents aspects, parce que ce qui est intelligent dans la dentelle de Bayeux par rapport à d'autres techniques qui sont plus mécaniques, j'allais dire, où les basses se répètent, c'est une déclinaison des bases, quoi. Mais Bayeux, comme c'est un motif très figuratif, ça permet l'interprétation. Donc ça prépare à l'improvisation. Et c'est ce qui me plaisait dans le Bayeux, parce que c'est absolument pas monotone. Et il faut toujours interpréter le dessin, le penser, prévoir comme une partie d'échec, tout construire. C'est pour ça que j'étais attirée par celle de Bayeux, parce qu'elle avait beaucoup plus de liberté.
Et alors après, une fois que tu avais, toi, maîtrisé les bases de la dentelle,
oui.
comment après tu as construit ton métier ?
Donc on était dans les années 70, donc plein de projets utopiques, évidemment. Et je me souviens, on avait monté une association pour la sauvegarde du patrimoine un petit peu. Donc il y avait des ateliers bois, à l'époque il y avait les teintures végétales, filage de la laine et la dentelle. Et j'ai commencé à transmettre ce que j'avais découvert. Et puis après, ça s'est un peu plus construit. Et on avait présenté pour de la formation, parce qu'on avait le projet d'aller plus loin dans cette technique de la dentelle pour la la refaire vivre de ses cendres. Et on avait fait, à l'époque, c'était le pacte pour l'emploi. Et après, j'avais à cœur de... Parce que je trouve ça tellement intelligent qu'avec si peu d'éléments, on puisse à ce point aller loin dans la finesse, la transparence, et la régularité, le dessin, que j'ai voulu le partager et former d'autres personnes pour essayer de refaire sortir un petit peu cette technique du passé.
Dans ta transmission, ça s'est passé de mère en fille, comme toi, tu as eu aussi une transmission de ta maman à la maison.
Par la pratique, par l'exemple aussi, j'allais dire, parce que c'est à sa demande que je lui ai appris, par exemple, la dentelle au fuseau, elle la connaît. Mais elle a fait une formation différente que moi, je ne lui ai pas transmise, c'est la dentelle à l'aiguille.
Et aujourd'hui, vous travaillez ensemble?
Ça nous arrive, oui. D'échanger, que ce soit sur les dessins et sur la technique.
À Alençon, par exemple, c'est pas la même dentelle?
Non, c'est de dentelle à l'aiguille. Donc mais c'est un atelier national qui dépend du mobilier national. Donc, il y a une formation interne qui est faite. Donc ça dépend...
Parce qu'il existe deux façons de faire de la dentelle.
Oui, dentelle à l'aiguille et dentelle au fuseau en Basse-Normandie. C'est rare de trouver, surtout à ce niveau technique hein, aussi pointu, c'est rare de trouver ces deux techniques dans une même région. Hein. La Normandie est, je trouve, un superbe patrimoine là. Mais j'ai toujours trouvé, moi c'est normal, hein, je suis un peu partisane, j'allais dire, qu'elle n'exploitait pas du tout
ce savoir-faire.
Et puis même, moi je trouve que c'est un superbe héritage. Et puis il y a un savoir-faire qui a occupé des milliers de femmes pendant des siècles, un produit typiquement normand qui s'est exporté et tout. Et puis il est là, c'est drôle, j'ai trouvé qu'on ne lui accordait pas beaucoup d'importance. C'est étonnant, hein, parce que c'est un sacré savoir. Hein. Et si ça s'ouvre, c'est ou dans le loisir, mais ça reste
traditionnel, quoi.
Enfin... Voilà, et ça reste du loisir, ou ce qu'ils appellent, certains disent, création des motifs naïfs. Mais une réelle recherche pour mêler les techniques, créer un autre produit, non.
J'imagine que t'apprends encore la dentelle.
Ah bah toujours.
Toujours en apprentissage, enfin, t'es toujours en découverte.
Techniquement, non, hein, parce que ça fait depuis 1974 que je travaille dessus. La découverte, c'est de l'improvisation. J'écoutais Didier Lockwood, et qui parlait justement de l'improvisation. Et ça fait-il dans ma tête. Avec le temps, je n'avais pas réfléchi. Et puis maintenant, comme je suis un petit peu en retrait, j'ai plus de temps pour analyser. Quand tu es dans l'action... Tu prends pas le temps du recul, t'es happé parce qu'il y a l'aspect économique qui t'entraîne. Et je crois que ma recherche, elle est dans cette maîtrise de la maîtrise, façon de parler, de l'improvisation, c'est savoir libérer, suivre la matière, interpréter avec une base technique que tu maîtrises et s'en échapper. Et c'est là que j'ai fait beaucoup de découvertes.
J'imagine qu'il y a des passages, une fois que tu as maîtrisé ta technique, dont tu es passé à cette phase d'improvisation. Et est-ce qu'il y a d'autres phases comme ça que tu as senties dans ton parcours? Et lesquelles?
Mettre des mots, je ne sais pas si je saurais le faire, mais c'est vrai que en travaillant, ça fait des déclics. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Pourquoi? Comme quoi, les choses, c'est comme dans la vie, comme dans la nature qui nous entoure, il faut que les choses mûrissent. Quand tu le découvres, c'est une joie incomparable. Hein. Je crois qu'il y a pas plus belle joie que celle-là, c'est quand tu déboules. Tu découvres un truc, tu dis, mais mince, c'était tellement logique, mais c'est pas possible. Et t'es heureux. Oui, c'est une joie de découvrir que tu peux avancer encore par rapport au passé sur la technique. Tu es contente comme tout parce que tu as trouvé une solution qui jusque-là, que tu n'avais pas.
Alors quand tu dis improvisation, parce qu'il faut qu'on arrive nous à visualiser ce que ça veut dire.
On fait un dessin, on met les points, tout le travail est inscrit sur ce qu'on appelle notre carton. Et on le suit régulièrement. Dans l'interprétation, puisque ce sont des nouvelles matières, je travaille un peu tout, le nylon, différentes matières. Donc des fois... Donc je me donne les grandes bases, hein, j'ai un dessin très simple et je suis ma matière, je suis l'univers de l'artiste et je me laisse emmener. C'est-à-dire que...
Tu travailles à plat au départ,
oui,
dans l'ancienne pratique.
Les points ne sont pas vraiment structurés comme sur un carton traditionnel. La matière m'embarque et c'est là que... en fonction de la couleur de la matière, se crée la vie. C'est-à-dire, là, il y a un mouvement, il faut traduire une œuvre. Donc, c'est la matière, c'est l'œuvre. Quand je fais le crâne, je vais faire des moulages et remettre le crâne à plat pour pouvoir le travailler à plat et le reconstruire. Il faut qu'il y ait la fragilité en même temps, cette espèce de poésie où on démystifie un peu la mort. Il y a toute une analyse intellectuelle à avoir avec. Et il faut traduire ça. Dans le cahier des charges de ce que me demande l'artiste, moi je vais tout étudier comme un ingénieur. C'était pour une autre artiste, Martin Schild, mis au point un métier où je travaille dans l'espace, dans le vide, pour avoir des tubulures proches de l'organe humain. Et ça avait beaucoup plus de vie que si je le mettais à plat et ensuite je le referme pour en créer un volume. Là, il fallait que pour faire comme une trachée artère ou autre, que je travaille en rond. C'était en y mêlant des points de dentelle au fuseau. Donc là, j'ai inventé un métier pour trouver une solution technique. Donc, tu vois, l'improvisation, oui. C'est aussi, même dans la conception de la technique, pour coller au maximum au projet. Souvent, on m'a demandé, mais pourquoi tu ne crées pas tes propres œuvres, puisque tu sais le faire pour les autres? Ben non, moi, je trouve que je tournerai en rond, peut-être que j'ai rien à dire. Parce que quand on crée des œuvres, qu'on a quelque chose à dire, peut-être que j'ai rien à dire. Et que je trouve... que la collaboration avec les artistes m'emmène sur des terrains que peut-être je n'aurais jamais abordés. Mais je sais que c'est grâce à ces rencontres, comme je dis, j'ai fait mon école des beaux-arts comme ça. L'improvisation, la recherche est quelque chose de vivant parce qu'une fois qu'on a un savoir et qu'on le répète, c'est mort. C'est figé, c'est fini. On le répète. La vie, elle ne se répète pas.
Non, elle continue.
Pour qu'une dentelle se tienne déjà, il faut un certain nombre de fils. Et ça, il faut le trouver, le bon nombre, ou pas saturer, ou que ce soit trop creux et que ça ne se tienne pas. Il y a la bonne quantité de fils à prévoir. Ça aussi, c'est une expérience. On l'acquiert. Et quand en art contemporain, c'est vrai que quand tu as tout bien calculé, que les mouvements dans le volume que tu as voulu donner se mettent en place et autres, et quand tu as fini ta pièce, Tu la découvres à ce moment-là, et ça c'est super, c'est un moment magique. Un an, deux ans, trois ans après, le côté technique a complètement disparu. La pièce, elle vit.
Tu as l'impression de découvrir quelque chose qui t'est étranger un peu, quoi.
Voilà. La pièce dans sa globalité, alors que c'est un petit détail, quand tu l'as fini, il y a un petit détail qui te plaît pas, hein, ou tu vois, t'es encore dedans, mais dedans.
Est-ce que tu peux me parler de ton rapport au temps quand tu travailles ?
Ah oui, c'est terrible ça.
Et pourquoi ?
Ces techniques demandent beaucoup de temps, effectivement. Donc, quand tu les pratiques, toi, tu échappes au temps. C'est drôle, ça. C'est-à-dire que tu perds complètement la notion du temps. Une journée à travailler sur la dentelle, c'est comme 3-4 heures. On ne la voit pas passer. C'est pour ça que c'est très drôle. Et en même temps, le système économique fait que tu es obligé d'en tenir compte. Ça, c'est un peu
antinomique
complètement. Ouais. Et c'est ce qui est triste un petit peu. C'est que c'est une technique. En peinture, on ne va pas demander à un artiste de calculer le temps qu'il a mis à peindre, ou un sculpteur le temps qu'il a mis à sculpter pour justifier du prix de l'œuvre qu'il a. Mais dès qu'on passe par la main et le textile, ce genre de rapport vient en avant. Maintenant, le temps a une valeur économique, alors que la pratique en elle-même, elle en nécessite beaucoup de temps. Et ce qui fait que ça a sûrement aidé en grande partie à sa disparition. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, pas qu'on revienne à l'éclairage, à la bougie, c'est pas le problème, encore qu'il y en a qui se posent la question. Mais je veux dire que c'est pour moi quelque chose, une technique intelligente qui, en plus, ramène à un temps humain. Parce que moi, je trouve dans... Aujourd'hui, c'est que quand je vais à Paris, si je prends le RER, quand je vois certaines constructions, je dis, c'est pas possible que l'humain il fasse de l'inhumain à ce point-là. Les techniques qui demandent du temps sont pratiquées dans les loisirs, parce que j'imagine que ça ramène du temps humain à l'équilibre de chacun, quoi.
On est dans ta maison, tu es dans la nature, et la nature t'inspire aussi dans ton travail.
Énormément. On revient à l'origine. L'inspiration de départ de la dentelle, elle est du venir de la nature. Hein. Les femmes, elles ont reproduit ce qu'elles voyaient autour de, que ce soit dans les cristaux de neige. Il y a plusieurs légendes suivant les pays. Je crois que c'est en Allemagne, c'était les cristaux de glace
sur les fenêtres.
Voilà. Et qui a inspiré une dentelière. Donc il y a un tas de légendes et ça vient forcément de la nature, ou de la mer, mais c'est forcément des phénomènes naturels, ou les feuilles, ou et c'est vrai qu'autour de moi, je regarde, bien sûr.
Qu'est-ce qui te plaît le plus autour de toi ? Qu'est-ce qui t'inspire le plus ?
Ah ben, c'est les structures. Il y a l'automne où toute la structure apparaît, hein, l'automne-hiver, et au printemps, le plissé des feuilles, quand ça se déplie. Oh, c'est magnifique. Là, c'est des sources d'inspiration, hein, parce que le plissé construit des réseaux. Donc, au niveau de la construction, je regarde, mais il y a plein de détails dans la structure des plantes, comment c'est construit aussi. Le chiffre, puisque je cherche aussi sur l'impair, en dentelle, on a un nombre de fils pairs. Quand on a un nombre de fils impairs, c'est qu'il y en a un qui est passif. Il ne fait que passer, il n'intervient pas réellement. C'est ce qu'on appelle le cordon, c'est le fil le plus épais qui vient souligner le dessin. L'inspiration, tu l'as pas de telle heure à telle heure. Si je veux travailler jusqu'à 1h du matin et plus, je peux. Et n'importe quel jour, là, pareil, j'ai pas de contrainte, de présence, si tu veux. Donc, ça me permet aussi d'avoir un meilleur suivi. C'est un grand luxe, ça, je m'en rends compte.
T'as pas mal aux yeux quand tu travailles longtemps ?
Non, du tout. C'est que la connaissance compense la vue. Il y a des choses que je vois pas, mais je sais. Aujourd'hui, j'aimerais faire le pont entre le passé et le présent, puisque j'ai bien avancé dans le temps. Donc, je fais des recherches un petit peu dans l'art islamique. Et quand on voit le travail des mosquées, la dentelle, il y en a partout. Elle est faite avec la pierre, le staff, il y a différentes matières, mais la dentelle, elle existe. Ça fait longtemps que ça me tient à cœur et pour voir sur quoi je débouche au niveau de la création des points. Me mettre à cheval un peu entre la Normandie
et la Méditerranée.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de Mylène Salvador-Ross, vous pouvez consulter sur le net les archives de l'exposition Métissage. Lire un ouvrage sur la sagesse de la dentelière à l'Œil Neuf Édition. Et pour le plaisir des yeux, une exposition Sacré Blanc sera présentée à Angers. Un hommage à Thomas Gleb au musée Jean Lursa. Cette exposition sera présentée du 29 juin au 18 novembre sous la direction d'Yves Sabourin, commissaire de l'exposition et délégué aux arts plastiques du ministère de la Culture et de la Communication. Les extraits musicaux sont tirés des albums Suite africaine avec Louis Clavis, Henri Texier, Aldo Romano et Napoli's Walls de Louis Clavis. Le générique est de General Dub. L'émission a été réalisée par Sandre Delors. À la technique, Monsieur Édouard Potard. Si vous désirez nous écrire, éclat d'âme @radiobazarnaum.com.